Des voies de service, mercredi le 25 juillet 2018. Bonjour tout le monde, ici Daniel Lachance au micro de Canal M et je suis en compagnie ce matin de Serge Bradet. Bonjour Serge.
Bonjour, bonjour.
Et de Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde. Mm-hmm. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour messieurs.
Vous allez bien tout le monde?
Ah, oh, très bien.
On va dire bonjour à notre collègue Isabelle. Mm-hmm. Pour cause de vacances, je crois.
Vacances allergiques,
on va dire, on va dire ça comme ça. Donc, Serge, de quoi allons-nous parler aujourd'hui?
Dans la presse de lundi dernier, il y avait un article. On a découvert 2200 tessons de poterie sous l'intersection des rues Sherbrooke et Peel. Donc, c'est un village autochtone qui a été découvert. Alors, je vais vous parler de ça. Mm-hmm. Ensuite, pourquoi l'Amérique s'appelle-t-elle l'Amérique et non Christophe quelque chose?
OK, ben, j'ai ma petite idée, mais on verra.
Ouais, c'est ça, oui. À cause d'un monsieur qui s'appelle Amerigo Vespucci, je vous donnerai.
Voilà.
Je vais vous parler de ça, ouais.
J'ai étudié la géographie quand même. Plusieurs années, mais ouais, je me souviens.
Mais dans les livres d'histoire, on en parle beaucoup parce que c'est vraiment quelque chose qui est un peu bizarre. Là, que... mm-hmm. Et évidemment, si on a le temps, aussi, je vais vous parler de marbre et de cendres. C'est sur les ruines de Pompéi.
OK.
Pompéi.
Qu'on connaît bien aussi. Mm-hmm. Moi, je vais vous parler de... vous savez, on parle beaucoup de parité homme-femme aujourd'hui dans certains domaines. Mm-hmm. Donc, dans le milieu de la musique, je vais vous en parler. Et aussi, je vais vous parler d'un nouveau spectacle du Cirque du Soleil à Trois-Rivières, en deuxième mm-hmm. partie. Mm-hmm. Donc Serge, on débute avec les reliques d'un village autochtone.
Oui. Il y a des trésors sous nos pieds, mm-hmm. on l'ignore. Alors c'est un article de Pierre-André Normandin qui est paru dans la presse de lundi dernier, le 20, je crois, le 20 lundi. Ben, en tout cas, trouvez-moi ça.
J'ai atteint de faire le calcul, le puis je suis déjà mêlé. Le 20, c'était vendredi, je pense, mais bon.
Vendredi?
Oui.
Ah non, excusez-moi, non, c'était...
On est le 25.
C'était vendredi, c'était pas, c'est pas okay, lundi,
donc,
c'était vendredi.
OK, donc on est correct.
C'est ça, on est correct. Oui.
Mais aujourd'hui, on est mercredi, le 25.
Oui, je suis pas tout à fait réveillé, je suis abrumé. Alors, des archéologues ont fait une découverte majeure sur l'une des rues les plus achalandées du centre-ville. Sherbrooke et Peel, c'est mm-hmm. très achalandé. Des milliers d'objets trouvés sous l'intersection des rues Sherbrooke et Peel révèlent que les Autochtones auraient établi un village à Montréal dès 1400, soit bien plus tôt qu'envisagé.
Peut-être que dans quelques siècles, ils vont trouver des reliques de la F1 dans ce coin-là aussi.
Non, peut-être, oui. C'est une découverte importante. On avait un peu de traces par-ci, par-là de l'occupation de Montréal par les Iroquois du Saint-Laurent. Mais ça, c'est le seul site de village qu'on a sur l'île, s'emballe Roland Tremblay, archéologue pour la firme Ethnoscope. Pendant les travaux pour l'aménagement de la promenade Fleuve-Montagne en 2016 et 2017, la Ville de Montréal avait chargé des archéologues de mener des fouilles. Cette décision avait été prise en raison de la proximité du site archéologique Dawson, où plusieurs objets avaient été trouvés vers 1860 près de l'Université McGill. Malgré l'urbanisation du secteur et la présence de nombreuses infrastructures sous terre, des portions de sol jamais perturbées ont été relevées en cours de chantier sous l'intersection des rues Sherbrooke et Peel. On s'est dit que s'il restait quelque chose, on allait le trouver. Quand on est tombé sur cela, ça a vraiment été une surprise, dit Marie-Claude Morin, archéologue pour la Ville de Montréal. Ces quelques lopins ont en effet représenté une véritable mine d'or historique, recelant pas moins de 2200 tessons de poterie. Ceux-ci proviendraient d'environ 90 vases différents. Plusieurs outils taillés dans des os ou de la pierre ont également été retrouvés, signe de la présence d'un village. La datation au carbone 14 d'une dizaine d'échantillons a permis d'établir que l'occupation du site remonterait à plus de 600 ans.
Donc, avant que les Français arrivent ici.
Oui, avant que la création de Montréal soit faite. Ça tend à reculer l'occupation de Montréal autour des années 1400, alors qu'on pensait que le site Dawson datait des années 1550, qu'il était contemporain de l'avenue de Jacques Cartier, relate Roland Tremblay. En plus des objets, la sépulture d'une jeune adulte a aussi été trouvée quelques jours avant Noël 2016. Celle-ci fait partie des sépultures que Montréal entend restituer à la nation Mohawk. Les restes étaient toutefois en mauvais état, ayant été malmenés lors des travaux pour l'aménagement d'infrastructures il y a longtemps. Sa présence semble être passée inaperçue à l'époque. Les archéologues ont aussi découvert une dent de béluga, ce qui tend à prouver que les habitants commerçaient avec d'autres groupes éloignés. Le béluga ne remonte pas à Montréal de façon régulière, mais les Iroquois du Saint-Laurent de la région avaient des cousins dans la région de Québec.
OK, donc il y avait un commerce entre les deux.
Ouais. Il y avait des échanges avec eux, selon Roland Tremblay. Cette découverte ne tranche pas le débat sur l'emplacement du village d'Hochelaga, décrit par Jacques Cartier, prévient Roland Tremblay. La datation situant le village autour de 1400, ce site n'était vraisemblablement plus occupé au moment de la venue de l'explorateur français. En effet, les Iroquois occupaient un site en moyenne de 15 à 30 ans.
Ah?
Oui, seulement. Ils se déplaçaient lorsqu'ils avaient épuisé le sol avec la culture du maïs.
OK, donc c'était presque des nomades.
Oui, exactement, oui, parce qu'ils n'avaient pas, pour moi, qu'ils n'étaient pas au courant qu'il fallait laisser reposer le sol ou varier la culture. Épuiser le bois ou épuiser la petite faune qu'ils chassaient également. Au bout de 20, 25 ou 30 ans, ils devaient explorer pour trouver un établissement ultérieur, expose M. Tremblay. Il serait toutefois possible que le site ait été occupé, abandonné, puis de nouveau occupé à l'époque de Jacques Cartier, évoque Roland Tremblay. Une hypothèse est qu'on aurait habité à cet endroit vers 1375, qu'on serait parti ailleurs à Montréal ou autour et qu'on serait revenu dans les années 1525. C'est une possibilité, mais ce n'est pas encore clair. Devant l'importance des découvertes, la Ville de Montréal a décidé de mandater de nouvelles fouilles archéologiques alors que doit débuter la semaine prochaine un chantier dans la rue Peel, tout juste au nord du site où les objets ont été trouvés. À cause de cette découverte, on a décidé de faire d'autres fouilles archéologiques, indique Marie-Claude Morin. Des techniciens de fouilles Mohawk feront partie de l'équipe. Montréal travaille aussi sur un projet de commémoration de la présence autochtone. Ce rappel sera intégré dans l'aménagement de la rue Peel. Cette démarche de réconciliation a été entreprise par la Ville de Montréal. Et voilà!
Donc, je poursuis avec un article qui est paru aussi dans la presse, dans l'édition du 19 juillet. Une parité favorisée par un processus à l'aveugle. Et je trouve que c'est une bonne idée. Mais on va le lire pour voir jusqu'à quel point. Femmes et hommes côte à côte dans les orchestres symphoniques d'ici. La question de parité est souvent liée au processus de sélection à l'aveugle des musiciens, une façon de faire qui permet de mettre de l'avant le talent, et ce, peu importe le sexe des artistes. Au sein des orchestres symphoniques, la parité est perçue comme une heureuse surprise et non un objectif. À Montréal, l'OSM et l'OM, l'Orchestre symphonique et l'Orchestre de Montréal, et à Québec, l'Orchestre symphonique de Québec, et Ottawa, CNA, je ne sais pas c'est quoi ça.
Centre national des arts.
Centre national des arts, OK. Le processus de sélection des musiciens est fait de manière à mettre le talent de l'avant, peu importe qu'il soit d'homme ou de femme. L'Orchestre du Centre national des arts compte 32 hommes et 23 femmes au total, dont 12 hommes et 10 femmes avec des titres solo, assistants ou associés. Le ratio est semblable à l'Orchestre métropolitain où l'on trouve 25 femmes et 26 hommes. Ça illustre qu'il y a du talent, autant chez les hommes que chez les femmes, souligne Jean R. Dupré, président de l'OM. On est content qu'il y ait parité, mais on ne devrait pas la viser en soi. Le talent doit primer. À l'Orchestre symphonique de Montréal, les hommes occupent plus d'espace. Sur 84 musiciens, seuls 31 sont des femmes. Et parmi les 17 sections, seules 2 femmes occupent un poste solo. Et c'est un hasard. Beaucoup de femmes sont associées ou deuxièmes dans leur section. Je suis ici depuis 43 ans et je n'ai jamais été témoin d'une déception parce qu'une femme aurait gagné une audition. Et ça, c'est Jean Gaudreau, directeur du personnel des musiciens de l'OSM. Il y a actuellement 28 femmes et 19 hommes à l'Orchestre symphonique de Québec. Selon Tristan Lemieux, directeur du personnel des musiciens, les chiffres varient d'année en année et la parité est souvent une réalité grâce à un processus de sélection à l'aveugle. Les auditions sont tenues derrière un écran du début à la fin, explique-t-il. Les membres du comité de sélection votent pour des numéros de candidats sans connaître leur genre ou leur apparence. Ils se fient uniquement à la performance artistique. Également réalisé derrière un rideau, les auditions de l'OSM impliquent un élément de plus. Un tapis est installé de la porte d'entrée jusqu'à l'espace où se tiennent les auditions pour éviter qu'un candidat portant des talons hauts soit identifié comme une femme. Donc, on fait vraiment attention pas identifier. Mm-hmm. Tout est entièrement contrôlé, souligne M. Gaudreau. Depuis l'avènement des cellulaires, les membres du jury n'y ont même plus accès 30 minutes avant les auditions pour éviter les communications entre eux ou avec l'extérieur. L'Orchestre métropolitain est encore formé de plusieurs membres fondateurs qui y sont depuis 1980. N'empêche, les nouveaux venus passent eux aussi par un processus de sélection derrière un rideau. Sauf pour la ronde finale, on veut interagir avec la personne pour voir si elle est à l'aise et si elle dégage une énergie positive lors de sa performance, précise M. Dupré. Plusieurs orchestres retirent aussi le rideau lors de la dernière étape. C'est le cas, entre autres, au Philharmonique de Los Angeles. Cela dit, lorsque les auditions pour un poste sont réalisées à l'interne et que les juges connaissent les candidats depuis des années, des précautions supplémentaires s'imposent. Avec le temps, on peut reconnaître certains aspects du son des musiciens, leur façon de marcher ou de respirer, explique M. Lemieux. Avant les auditions, on leur demande donc d'éviter tout bruit autre que la musique qui pourrait permettre à quelqu'un de les reconnaître de façon fortuite. Le directeur du personnel des musiciens de l'OSM croit que le milieu des orchestres est difficilement comparable à d'autres quand il est question de parité. Je pourrais affirmer que ce serait extraordinaire d'avoir un ratio de 50-50 entre les hommes et les femmes, mais on n'a aucun contrôle là-dessus, dit Jean Gaudreau. Si on atteignait ce résultat, ce serait une coïncidence. La représentation de la diversité est une réflexion particulièrement américaine aux yeux de Tristan Lemieux. Aux États-Unis, plusieurs orchestres réalisent un travail d'éducation à la musique auprès des publics de tous les âges et de nombreuses communautés culturelles. Ils accordent entre autres des bourses d'études afin de soutenir des musiciens issus des minorités culturelles qui pourront à leur tour servir de modèle. On se pose moins la question au Canada, peut-être qu'on devrait. Le président de l'OM voit quant à lui une distinction entre l'Amérique du Nord et l'Europe. En Amérique, on est un peu chanceux d'avoir cet esprit plus égalitaire, affirme Jean Dupré. En Europe, je ne crois pas que le processus d'audition soit semblable au nôtre. Peut-être que dans les orchestres établis depuis des centaines d'années, les femmes ont été découragées d'emblée de postuler pour un poste en sachant qu'elles ne l'obtiendraient pas. Mm-hmm. Tristan Lemieux abonde dans le même sens. L'intégration des femmes est un phénomène récent à l'Orchestre philharmonique de Vienne. Sur une centaine de musiciens, il y a presque exclusivement des hommes. Le milieu classique demeure très conservateur sur certains aspects. En France, en Allemagne et en Autriche, les orchestres prestigieux tiennent un peu plus aux traditions.
Ouais.
Mais moi, je trouve que c'est une très bonne idée de faire ça de cette façon-là à l'aveugle, parce qu'effectivement, viser la parité, c'est peut-être pas le but,
mais
l'obtenir de cette façon-là, c'est beaucoup plus juste. Et d'ailleurs, on est mal placé pour parler de parité ce matin, on est trois gars. Donc, les femmes sont plutôt mal représentées ce matin dans notre studio.
Mais je reviens au nombre. Ça me surprend parce que moi, je trouve ça quand même, tu sais, pour l'orchestre, c'est de Montréal, c'est 80 musiciens, puis il y en a 31-32 femmes. Mais tu sais, on est quand même pas loin du...
Ouais, j'imagine que...
Faut pas virer fou non plus.
Effectivement, je pense que ça dépend beaucoup de l'intérêt aussi des femmes de faire partie de ce genre
L'orchestre
d'orchestre.
L'orchestre métropolitain aussi, je pense, c'est quand même assez 25 femmes qu'on disait.
Mais c'était quand même plus proche.
Ouais,
mais
c'est
en tout cas, de toute façon, c'est question d'opinion, mais moi, je trouve que c'est une bonne façon de fonctionner. Ça donne la chance à tout le monde et j'imagine que c'est plus simple de cette façon.
Je dois m'en aller, je n'ai plus qu'à jeter mes clés, car elle m'attend depuis que je suis né. L'Amérique, j'abandonne sur mon chemin tant de choses que j'aimais bien. Cela commence par un peu de chagrin. L'Amérique, mais l'Amérique, l'Amérique, de train, toutes les sirènes de bateaux vont chanter sans fond la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique. Mes amis, je vous dis adieu, je devrais vous pleurer un peu. Pardonnez-moi si je n'ai dans les yeux que l'Amérique. Je reviendrai, je ne sais pas quand, cousu d'or et broté d'argent, ou sans un sou mais plus riche qu'avant, de l'Amérique. L'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. Tous les sifflets de train, toutes les sirènes de bateaux vont chanter sans fin la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique. L'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. L'Amérique, l'Amérique.
Messieurs, j'ai envie de vous poser la question, si vous aviez reconnu l'interprète de cette chanson.
Oui.
C'est qui donc?
Bah oui, tu sais. C'est,
oui,
c'est,
je me suis, le nom me vient.
C'est juste parce que l'âge, là, c'était ta fête cette semaine, hein. T'es plus vieux.
Oui.
C'est difficile. C'est Joe Dassin.
Ouais.
Joe Dassin.
Est-ce que vous voulez vous risquer avec le titre de la pièce?
L'Amérique.
Voilà. Et est-ce que vous oseriez vous risquer sur c'est une traduction de quelle chanson?
Ah ben là, une traduction, ça?
Oui.
Ah oui?
Yellow River, par la band qui s'appelait tout simplement Christie. En 1970. Mm-hmm. Je vais faire un Paul Hood de moi-même.
Ben oui, mon Dieu.
Non, ben je me souviens quand j'avais entendu cette chanson-là pour la première fois par Joe Dassin, je me disais, c'est quoi le rapport? C'est pas une traduction, par exemple. C'est vraiment une adaptation. Mm-hmm. Il a pris la même musique, mm-hmm. mais le texte, c'est pas du tout la même chose. Mm-hmm. L'autre, au lieu de répéter l'Amérique, il répète Yellow River.
Yellow River.
Donc, ça ressemble pas vraiment.
Sans tomber dans cette discussion-là, ce fut le cas de plusieurs chansons aussi qui ont été traduites, notamment The Animals, House of the Rising Sun, qui est devenu le pénitencier.
Et voilà. D'ailleurs, il y a juste faire une peine parenthèse, on ne veut pas prendre de votre temps, Serge.
Mais on va le faire quand même.
Il y a un site web très intéressant qui s'appelle secondhandsongs.com qui prend toutes les chansons comme ça, puis il recense le nombre d'interprétations, de réinterprétations, de traductions, tout ça qu'il y a eu. C'est assez impressionnant. Mm-hmm. Des fois, on peut voir des chansons, il y a eu 89 réinterprétations. Ben, on en connaît une.
Mais dans les années 60, tout ça, à l'époque, là, de jeunesse d'aujourd'hui, tout ça, là, ces émissions-là, Jeunesse oblige, les chansons qui étaient... qui donnait des tubes ici, des hits.
C'était
traduit de l'anglais.
C'était souvent soit des traductions ou, comme on disait, plus des adaptations, parce que souvent le texte n'avait aucun rapport. Ouais. Donc, on revient à Serge Desolliers pour la parenthèse.
Mais c'est toujours intéressant ce qu'on...
Oui, quand même, on apporte des éléments nouveaux.
Alors, c'est un article dans la revue Historia. C'est un numéro spécial de la revue Historia de mai-juin 2018, donc tout récent, et qui s'appelle un article de Pierre Ragon qui s'appelle « Dans le sillage d'Amerigo Vespucci ». De l'abordée de marins s'embarquant pour le Nouveau Monde, ce Florentin n'est pas le plus connu. C'est lui pourtant que l'histoire a retenu pour qu'il donne son nom au continent découvert. Au milieu de tant d'orages gigantesques, il plut au très haut dans le ciel de nous faire voir devant nous un continent, des régions nouvelles, un nouveau monde. C'est en ces termes que le Florentin Amerigo Vespucci, qui vécut de 1454 à 1512, s'adressant à un ambassadeur de sa cité auprès du roi de France, introduit le récit du voyage qu'il a effectué sur les côtes du Brésil et de l'Argentine au cours des années 1501 et 1502. Il est le premier à faire connaître en Europe l'Amérique pour ce qu'elle est, un nouveau continent, jusque-là ignoré de ses correspondants. Depuis 10 ans, la plus grande confusion régnait sur ce point. Et c'est là que ça devient... on comprend pourquoi là, le nom a été donné. Lorsqu'Amerigo Vespucci rentre de ce voyage, Christophe Colomb prétend encore que les îles nouvellement découvertes sont des archipels de l'Extrême-Orient.
Okay.
Ils voulaient tous aller en Chine, hein, ou en Inde pour les épices.
Il cherchait un chemin par l'autre côté.
Oui. Alors, il défendra cette idée jusqu'à sa mort en 1506, Colomb. Rien ne prouve qu'il y croit, mais les droits et les privilèges évidemment exorbitants que la reine Isabelle de Castille lui a concédés à Santa Fe tiennent à cela. Son immense notoriété fait le reste, même si le monde des marins et celui des savants sont perplexes. Amerigo Vespucci est de ceux qui rompent le silence et ses déclarations ont un énorme retentissement. La lettre qu'il adresse le 7 septembre 1502 à l'ambassadeur Lorenzo Pierre di Medici a un immense succès. Traduite en latin, elle sera publiée quelques mois plus tard sous le titre de « Mundus Novus » et connaîtra 10 rééditions entre 1503 et 1506, tant en latin qu'en italien ou en allemand. L'opinion publique est avide de ces nouveautés, et les sources d'informations sont rares à cette époque.
Oui, on n'avait pas encore...
Ben non. Outre quelques lettres de Colomb et les textes de l'humaniste de cour Pierre Martyr d'Anghiera, les écrits d'Amerigo Vespucci sont les seuls qui fassent très tôt l'objet d'une telle diffusion. Ses navigations, pourtant, sont mal connues. On lui attribue 4 voyages, mais peut-être n'en a-t-il effectué que 3. La réalité du premier, qui se serait déroulé en 1497 et 1498, est souvent mise en doute. Il ferait de lui, avant Christophe Colomb, le premier marin européen à avoir longé les côtes est du continent centra-américain, un fait que les contemporains n'auraient pas manqué de relever. C'est qu'Amerigo Vespucci n'est pas sous le feu des projecteurs. Aucune flotte ne lui est confiée.
Confiée, c'est ça.
Oui. Mais il navigue sous l'autorité d'autres capitaines, il s'embarque comme pilote ou reçoit le commandement d'un navire dans une expédition qu'il ne dirige pas. Ainsi est-il parti 3 ou 4 fois, si on accepte ou non la réalité du premier voyage, soit 1497, 1499, 1501 et 1503.
Autrement dit, le premier voyage, il en faisait partie, mais c'est pas lui qui le dirigeait, donc
exactement.
Ça compte pas vraiment.
Ouais, ouais. Alors, une petite note ici dans un sous-article qui nous dit « C'est en 1507 à Saint-Dié-des-Vosges que pour la première fois, un petit groupe d'érudits décide de nommer Amérique les terres que Christophe Colomb a découvertes. Amérique est alors un mot nouveau, directement inspiré d'Amerigo, le prénom de Vespucci, et destiné à lui rendre hommage. C'est en lisant les récits de ses voyages qu'un cercle d'humanistes et de savants, vivant sous la protection du duc de Lorraine, prend cette décision. Ils sont férus d'astrologie et de géographie, attentifs aux nouvelles qui circulent dans les réseaux intellectuels, et une édition des lettres d'Amerigo Vespucci leur est tombée entre les mains. Alors c'est pour ça qu'on a nommé, et le nom est resté. La répétition rapide de ces entreprises ne doit pas surprendre. L'Espagne et le Portugal rivalisent alors pour découvrir le passage qui, entre les archipels connus et les fragments de côtes connues, permettrait de gagner pour de bon le Japon et la Chine, qui était le but des premières expéditions. En 1499, la route est ouverte pour les concurrents de Colomb, qui n'a pas su maîtriser la colonisation de l'Hispaniola, Cuba, et est momentanément tombé en disgrâce. L'hypothétique premier voyage d'Amerigo Vespucci l'aurait conduit à longer une grande portion des rivages de l'Amérique centrale, du Mexique et des États-Unis actuels même.
Ah, je ne pensais pas qu'il était remonté au nord.
Oui. Des côtes du Costa Rica ou du Honduras jusqu'à la baie de Chesapeake sur la côte du Maryland et de la Virginie. C'est assez haut. Assurément un exploit dont on ne connaît rien, pas même le nom du capitaine qui l'aurait accompli. La deuxième expédition à laquelle participe Amerigo Vespucci est bien mieux documentée. C'est celle que conduisent pour le compte de l'Espagne, en 1499 et en 1500, Alonso de Ojeda, qui fut également de l'aventure du deuxième voyage de Colomb en 1493. Elle les mène le long de la côte septentrionale de l'Amérique du Sud, de la pointe orientale du Pernambouc brésilien au golfe de Maracaibo au Venezuela. 6 mois après son retour, Amerigo Vespucci repart pour un troisième voyage, loin vers le sud cette fois, jusqu'en Patagonie, toujours pour le compte des rois catholiques. Cette expédition est la plus importante de toutes et la plus célèbre, puisque c'est elle qui le convainc que ces terres de l'Ouest forment un nouveau continent. Le récit de ce voyage est le premier de ses écrits qui fait l'objet d'une publication et d'une large diffusion. Amerigo Vespucci abandonne ensuite la couronne de Castille pour celle du Portugal. Ça arrivait à l'époque, on se promenait d'un royaume à l'autre.
Cherchait des commanditaires.
Oui, les protecteurs. Et se place sous l'autorité du capitaine Gonzalo Coelho, qui lui confie la conduite de l'un de ses 6 navires. En s'enfonçant en direction du sud, il s'agit de contourner les Nouvelles Terres et de gagner Malacca, le Grand Carrefour et l'océan Indien et la mer de Chine se rejoignent. Mais le projet est abandonné en cours de route à la suite du naufrage du navire amiral. Le dernier voyage d'Amerigo Vespucci se solde donc par un échec. Amerigo Vespucci n'est pas un explorateur, mais sa renommée ne tient pas non plus à ses seuls talents d'écrivain. S'il trouve aussi facilement à s'embarquer, c'est que, en tant qu'agent commercial d'une maison florentine présente à Séville, il est aussi bon pilote et excellent cosmographe. Il sait conduire les navires sur les mers et le long des rivages inconnus. En 1508, la couronne d'Espagne lui confie même la responsabilité de former ses pilotes et de leur fournir les instruments dont ils ont besoin. Alors voilà.
Donc
pourquoi
c'est pour
on
ça qu'on s'appelle
Amérique.
Amérique.
Amérique, ouais.
Je sais même
ouais.
pas si Donald Trump est au courant de ça. Donc vous avez une brève...
Oui, petite question. Quel animal est l'ancêtre de l'être humain?
Ah, on a souvent entendu que c'est le singe, mais pas certain.
Non, non, non. C'est... C'était dans le TV Hebdo la semaine dernière.
Ah, ah.
Revue
oui,
de poids. Non, mais des petits articles.
Ben, on apprend des choses.
Parmi les animaux encore vivants, bon, là c'est écrit comme ça. L'éponge de mer représente notre plus vieil ancêtre.
L'éponge de mer.
L'éponge de mer, c'est un
Donc,
c'est
un Bob, animal. L'éponge, c'est on a des affinités.
Selon une étude menée à l'Université de Bristol, c'est quand même sérieux, on a pu déterminer avec un bon degré de certitude que nous descendons tous de cet animal marin.
Ah.
L'éponge possède le système nerveux et le système digestif qui ressemble le plus au nôtre. Par rapport aux autres formes de vie complexes.
Je connais certaines personnes, en effet, qui ont un système
soyez pas méchants ce matin, d'abord. Par rapport aux autres formes de vie complexes qui existaient il y a 640 millions d'années. On est loin, là. On remonte
ouais,
loin.
Oui, oui, oui.
On remonte loin, oui.
Normal qu'on se souvienne pas
ouais.
de tout ça.
Oui, oui.
Donc, c'est ce qui met fin à la première partie de l'émission Les Voies de service du mercredi 25 juillet 2018. On vous revient dans quelques instants après la pause avec d'autres sujets.
Service. va se rouler un gros pétard. On va se péter la fiole en deux. Tu vas me dire, André, est trop tard. On peut être copains si tu veux. Pis ça, je le sais, ça va me faire chier. C'est rien que copain, j'aime mieux tout seul. Mais je t'orgueilleux quand je suis avec toi. Ça fait que je vais fermer ma gueule. On va faire l'amour en silence, comme des amants un peu blasés. Avant de me donner mes vacances, fais-moi croire que je suis pas clairé.
C'est Daniel Lachance et on est de retour avec les voies de service du 25 juillet 2018. Ça fait trois fois que je le dis ce matin. Je dois finir par savoir quel jour on est.
Bravo,
des fois, l'été,
bravo.
On perd un peu
oui,
de
oui,
fil.
Oui.
Et je vais continuer avec un article. Justement, on vient d'entendre, je pense que je vous ai coupé la parole, Jean-Sébastien. Vous vouliez présenter ce qu'on
pas,
vient d'entendre.
Pas du tout, vous n'avez rien coupé du tout, mais okay. On vient d'entendre les Colocs qui est tiré de leur premier album, Juste une petite nuit.
Juste une petite nuit. Et voilà, c'est le lien qui me manquait pour continuer avec un article qui est paru, un article de Émilie Côté, qui s'intitule justement Juste une petite nuit, festive et sombre. Il y a de la beauté, de la vulnérabilité et des prouesses physiques dans le spectacle Juste une petite nuit du Cirque du Soleil, dont la première avait lieu hier soir. Ça, l'article était daté du 19 juillet, donc la première a eu lieu le 18 juillet. À l'amphithéâtre Cogeco à Trois-Rivières, l'équipe de la direction artistique du spectacle est parvenue à évoquer les zones d'ombre de Dédé Fortin et son suicide avec raffinement, émotion et subtilité. Il est toutefois dommage que l'on ait fait fi de certains... je la reprends, celle-là. Il est toutefois dommage que l'on ait fait fi de certains traits forts de sa personnalité.
Bravo,
je vais
Daniel.
On va garder cette phrase-là pour des exercices de diction très appropriés pour ça. Juste une petite nuit de constitue le quatrième spectacle de la série Hommage du Cirque du Soleil. Après Robert Charlebois, Beau Dommage et Luc Plamondon, le cirque a choisi le répertoire des Colocs. Même tandem à la mise en scène et à la direction musicale avec Jean-Guy Legault et Jean-Phi, lui, je ne sais jamais comment prononcer son nom, Goncalves, ça finit par VES. Bon. Cette fois-ci, ce dernier a travaillé avec les chansons originales du groupe. De son côté, Jean-Guy Legault a voulu recréer un univers de party, de ruelle. On cherchait parfois, parce que c'est ça, hein, la musique des Colocs à l'époque, c'était vraiment festif, puis ça avait vraiment l'air d'un party de ruelle, effectivement. On cherchait parfois Dédé Fortin et l'esprit des Colocs dans certains numéros ou certaines mises en scène, hormis sa voix qui résonnait haut et fort dans l'amphithéâtre, mais le mariage des Colocs et du Cirque du Soleil est somme toute réussi. Structure industrielle, costume grunge, voiture abandonnée et baril marqué de graffiti dans une ambiance nocturne, c'est ce qui servait de décor au spectacle. Le synopsis, les rencontres de copains marginaux à la tombée de la nuit dans une ruelle délabrée. Décrocher le temps d'une petite nuit entre amis, quoi. On a assisté à un beau numéro de Ma Chinois sur Belzébuth, la chanson Belzébuth. La chorégraphie et les acrobaties évoquaient le gouffre que décrit Dédé Fortin dans cette chanson. Duo main à main d'une belle intensité, mais pas spectaculaire, entre deux jeunes hommes pendant Tassez-vous de là. La mise en scène évoquait la confiance entre deux amis. Or, la référence au texte aurait pu être plus forte. L'émotion était à fleur de peau pendant Le Répondeur, la balade triste et poignante où Dédé, le cœur brisé, dit qu'il est jaloux de voir des gens heureux. Un acrobate à la chemise tachée de sang a offert un superbe numéro aérien en s'accrochant à une lampe suspendue au devant de la scène. Le public retenait aussi son souffle pendant le numéro de Bungee Loop au son de « Dehors novembre ». Les amateurs de cirque plus techniques ont pu se régaler pendant le numéro de trapèze de Juste une petite nuit et la finale sur La comète. À l'inverse, les chorégraphies de cordes à danser et les barils en feu pendant Julie étaient quelconques par rapport au grand succès des colocs. Certains amateurs plus purs et durs du groupe sont peut-être restés sur leur faim. André Fortin était un fier nationaliste. Or, il y avait dans son groupe des membres ou des collaborateurs anglophones, autochtones et sénégalais. Dommage que Juste une petite nuit n'y fasse pas allusion, même si cela n'enlève rien à la qualité du spectacle. J'espère qu'on va se faire accuser de faire... Je dirai pas le mot. Quelques mots sur le magnifique amphithéâtre Cogeco aménagé au confluent de la rivière Saint-Maurice et du fleuve Saint-Laurent. La température était parfaite hier soir pour en apprécier tous les atouts. La salle de 3500 sièges compte trois murs et un plafond. On a donc à la fois le sentiment d'être à l'extérieur et à l'abri. Avant de prendre place, on peut se balader sur le bord de l'eau. Un très agréable décor. Donc, Serge, on revient avec...
Pompéi.
Pompéi, oui.
Oui, oui, oui.
Pompéi, ce n'est pas un pays.
Non, ça? Ben non, ben non, ben non. C'est, c'est un beau site. Très impressionnant. Moi, j'ai eu l'occasion d'y aller, moi, il y a 3 ou 4 ans. Là, c'est quelque chose. Bon, on voit beaucoup sur les écrans aussi, sur les documentaires, on parle de ça, mais c'est vraiment incroyable. Surtout, même plus Herculanum.
Okay.
Parce qu'Herculanum a été enseveli carrément plus rapidement que Pompéi.
Okay.
Et donc, vous avez encore des maisons de 2 étages à Herculanum qui ont été préservées. Et vous voyez les poutres de bois qui séparent les étages. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Alors, c'est toujours dans la revue... donc, celle-là, c'est le Historia régulier de juin 2018. C'est un film qui a... un film de Ian A. Hunt, qui s'intitule « Pompéi, la vie avant la mort », et l'article est d'Isabelle Mitty. Donc, c'est un film qui est passé sur Arte en France, hein, parce que la revue est française, mais ça va sûrement passer ici sur les écrans bientôt, là, d'Arte TV ou d'une des chaînes. De marbre et de cendre, rayé de la carte par l'éruption du Vésuve, Pompéi n'en finit pas de nous faire rêver. Grâce à des technologies de pointe, nous pénétrons dans l'intimité de ses habitants. Qui n'a jamais été fasciné par les moulages en plâtre des victimes de Pompéi, figées dans la mort par l'éruption du Vésuve le 24 août 1979? Ici, une famille avec de jeunes enfants. Là, un couple enlacé. Là encore, un homme recroquevillé se protégeant le visage. Une fois passé le premier effet de curiosité morbide, les questions se bousculent. Qui étaient ces gens? Comment vivaient-ils? Et surtout, pourquoi n'ont-ils pas fui?
Ils n'ont pas eu le temps, probablement.
C'est ça, on va voir ça dans la... C'est justement à ces interrogations que veut répondre le grand projet Pompéi, un ambitieux projet de restauration et de protection du site destiné à réhabiliter les ruines abîmées par le temps, les intempéries et le passage de millions de touristes. Les découvertes faites dans le cadre de cette vaste entreprise de sauvegarde sont présentées dans ce passionnant documentaire qui montre que la cité est loin d'avoir livré tous ses secrets. Les nouvelles technologies donnent ici un sérieux coup de pouce aux archéologues, les forçant à reconsidérer d'anciennes thèses. À ce titre, l'exploration par des techniques de pointe permet une double plongée dans le passé en jetant une lumière nouvelle sur les vestiges de Pompéi et sur les méthodes archéologiques qui ont accompagné la redécouverte du site au 19e siècle. Méthodes pas toujours très méticuleuses, certes, mais très ingénieuses. En 1863, Giuseppe Fiorelli, inspecteur des fouilles de Pompéi, avait eu l'idée lumineuse d'injecter du plâtre liquide dans les cavités autour des corps prisonniers, des débris volcaniques obtenant de véritables statues, révélant détails vestimentaires et expressions faciales, comme l'émouvant arrondi du visage d'un enfant. L'observation des moulages avait conduit à penser que les 1600 habitants qui n'avaient pas quitté la ville l'avaient fait faute de moyens, qu'ils étaient trop vieux. Or, le passage au scanner de moulage vient infirmer cette hypothèse en examinant les restes osseux enfermés dans leurs gangs de plâtre et en scrutant chaussures et vêtements, les experts ont découvert que ces individus
étaient pour la plupart dans la force de l'âge et qu'ils n'appartenaient pas aux couches les plus défavorisées de la population. Et s'ils n'ont pas fui, c'est certainement pour protéger leurs biens.
OK.
Pour,
ben, il avait peur de se faire voler.
Ben, de se faire piller. Oui, oui. Parce que là, quand vous évacuez une ville, ben, c'est le pillage qui suit. Hein. Car Pompéi était une ville prospère, dotée de somptueuses villas. La modélisation numérique a permis de dresser un plan 3D de la ville d'une extrême précision. On peut survoler la cité, pénétrer dans les villas, en parcourir les pièces, visualiser les décors en contexte et se déplacer dans l'espace avec une facilité qu'on n'a pas sur le terrain. Par la magie de la technologie, la ville est comme rendue à la vie. Mais Pompéi ressuscite aussi grâce à mille et un détails. Les archéologues ont ainsi mis au jour des graffitis d'enfants qui ressemblent trait pour trait aux dessins d'enfants d'aujourd'hui. Le documentaire nous fait pénétrer dans les réserves du site, dont l'accès est fermé au public. Nous y découvrons les trésors qu'elle renferme, des millions de restes fauniques et végétaux, d'objets du quotidien qui permettent aux chercheurs de retrouver les goûts et les odeurs de la cité disparue. Si la cité fascine autant, 2000 ans après avoir été rayée de la carte, c'est en grande partie parce que le site archéologique qu'elle constitue est un lieu où l'on ressent la vie. Plus qu'un voyage dans le passé, Pompéi, avec ses habitants, qui nous ressemblent tant, constitue indubitablement un pont entre notre monde et la civilisation de la Rome antique. Un article d'Isabelle Mitty.
Je vais vous revenir avec le spectacle du Cirque du Soleil. Un autre article qui est paru cette semaine, le 23 juillet. Donc, c'est des personnes qui ont... C'est des commentaires de personnes qui ont vu le spectacle. L'article s'intitule tout simplement « J'avais l'impression de revoir Dédé
».
Ça commence par « Magique, incroyable, parfait ». Les proches de Dédé Fortin manquaient de qualificatifs pour décrire à quel point ils ont apprécié le spectacle hommage au colloque du Cirque du Soleil. Ils étaient plus d'une trentaine réunis pour la première représentation de « Juste une petite nuit » à l'amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières mercredi dernier. Des frères, des sœurs, des neveux, des nièces et plusieurs autres encore heureux de voir le spectacle inspiré de l'œuvre d'André Dédé Fortin. Les sourires étaient grands sur les visages à la fin de la représentation. Du début à la fin du spectacle, ils ont savouré les numéros qui se succédaient au rythme des chansons composées par Dédé. Ils ont été charmés, touchés, éblouis devant la beauté du spectacle et la justesse de l'œuvre du Cirque du Soleil. Donc, ça tranche un peu avec l'autre qu'on a lu tantôt. « C'est incroyable, tout était beau, c'est exceptionnel », s'est exclamé Michel Fortin, le neveu de Dédé Fortin. « C'est magique, formidable, tous les numéros sont bons », a ajouté le frère de Dédé, Réal Fortin. Normand, l'aîné de la famille Fortin, était visiblement touché par l'œuvre du Cirque du Soleil. « C'est très, très, très bon. J'ai vraiment aimé Bonlieu. » Bonlieu, c'était une de leurs chansons qui avait eu un clip vraiment très impressionnant aussi. « Quand j'ai entendu la rue principale, j'avais l'impression de revoir Dédé la première fois qu'il nous l'a joué seul à la guitare dans le salon. » La fierté de la famille était palpable, tout comme l'émotion qui a pu l'envahir par moments, notamment en raison de la façon dont le côté le plus sombre de Dédé a été exploité. « C'est parfait, parfois simple et magnifique », estiment les membres de la famille. Benoît Fortin, un ami de la famille qui a appris ses premiers accords de guitare à Dédé, a été impressionné par la production. « C'est vraiment bon ». Le spectacle accorde beaucoup de place à la voix de Dédé grâce aux bandes maîtresses fournies par la famille, un élément qui fait bien plaisir aux proches de l'artiste. Ça confirme que les colloques, c'est l'œuvre de Dédé, estime Réal Fortin. Plusieurs membres de la famille ont assuré qu'ils reviendraient voir le spectacle. Ils souhaitent savourer à nouveau l'hommage offert à leur André. « On ne l'oubliera jamais », a assuré Normand Fortin. Si l'on se fie à ses proches, si Dédé peut voir ce qui se passe de là-haut, il affiche certainement un grand sourire.
On va rajouter un poème. Je vais faire un petit poème de Baudelaire maintenant. reste mes églogues, couchés auprès du ciel comme les astrologues. Et dessous des clochers, écoutés en rêvant, leur hymne solennel emporté par le vent. Les deux mains ont entendu haut de ma mansarde. Je verrai l'atelier qui chante et qui bavarde. Les tuyaux, les clochers, les mâts de la cité, et les grands ciels qui font rêver comme il est doux. À travers les brumes, de voir naître l'étoile comme il est doux. À travers les brumes, de voir naître l'étoile. Et la lune versait son pâle enchantement. Je verrai des printemps, des étés, des automnes. Et quand viendra l'hiver aux neiges monotones, je fermerai partout portières et volets pour bâtir dans la nuit mes féeriques palais. Alors je reverrai mes horizons bleuâtres, mes jardins des jets d'eau pleurant dans les. Comme il est doux, à travers les brumes, de voir naître l'étoile comme il est doux. À travers les brumes, de voir naître l'étoile comme il est doux. À travers les brumes, de voir naître l'étoile comme il est doux. À travers les brumes, de voir naître l'étoile.
Bukhale bugene bugoni wakamo.
Deno tefe foni antuna bidaratoko.
Bukhale bugene bugoni wakamo.
Deno tefe foni antuna bidaratoko.
Man mille jahle na yai, o man mille waruna. Man mille jahle na yai, o kholle adu na bini mutaro.
O bagi na khamne bumbiya na bumi kesela.
No khol adu na bini mutaro.
O bagi na khamne bumbiya la garatoko.
Kamala na wa, jeff na la wa. O bagi na khamne bumbiya la bumi kesela.
Jeli ramatumba le pul mumanadon, busabi nga khamni mila tao, yaya, dibaya, dileplo khamni manna wana kumanadon, atuna biya hiyo nila taro,
wo, nila taro, atuna biyo nila taro, wo, nila taro, atuna biyo nila taro, wo, nila taro. Atuna biyo nila taro, wo nila taro. Atuna biyo nila taro.
Hale bugeni, bugoni wakama. Udelo tefe fomi atuna bidara toko.
Hale bugeni, bugoni wakama.
Udelo tefe fomi atuna bidara toko.
Hale bugeni, bugoni wakama. Udelo tefe fomi atuna bidara toko.
Hale bugeni.
À travers les brumes,
de voir naître l'étoile comme il est doux.
À travers les brumes,
de voir naître l'étoile comme il est doux.
De leur dernier album qui s'intitule Suite 2116, c'était l'Écoloc avec la pièce Paysage.
On a toujours pensé que ça s'appelait Comme il est doux, mais non. Donc, Serge, on revient avec...
Oui, des petits, toujours du TV Hebdo, Tout savoir. C'était par Paul Terrien, c'est écrit par Paul Terrien. Un qui va probablement intéresser Jean-Sébastien en régie. Comment les châteaux de sable tiennent-ils debout?
Ah!
Avec de l'eau?
Les châteaux de sable, ils tiennent grâce au lien qui se crée avec l'eau,
oui,
qui agit comme une colle. En effet, sans eau, les grains de sable tombent les uns sur les autres. Ça prenait pas une maîtrise pour
voilà.
Ça. En ajoutant ce liquide, le sable devient une sorte de pâte. Chaque grain se trouve entouré d'une pellicule d'eau qui adhère à celle du grain voisin. Afin de réussir à maintenir en place une telle structure, les grains de sable doivent être assez rapprochés pour s'agglutiner. C'est pourquoi il faut taper sur les murs du château.
Il faut taper là-dessus.
Taper sur les murs du château, oui. Un autre, d'où vient le chameau?
Dans le désert.
Wow! Non. Aucune Jean-Sébastien, idée. Risqueriez-vous une... D'où vient le chameau?
On cherche une réponse géographique, là?
Oui.
Éthiopie.
Ah, toi, vous êtes loin, toi et deux.
Ben, moi, quand j'étais jeune, je demeurais à Granby. Pas loin du zoo, puis il y en avait, là, j'en voyais.
Très...
souvent.
Le chameau vient de l'Arctique.
Hein?
Quinte-toi. Ouais.
Ah, ouais.
Je vous embouche un coin tous les deux. Hein.
Mais bon, c'est, ouais, pas, c'est pas frileux, c'est.
En effet, selon la source du TV Hebdo, en effet, il y a 3,5 millions d'années, le chameau habitait le point le plus au nord du Canada avant de migrer lentement vers le sud. Il y vivait dans des conditions froides, mais plus douces, de 14 à 22 degrés par rapport à aujourd'hui. Ses pieds larges et plats s'avéraient utiles pour marcher sur la neige.
Ah.
Sa bosse.
Donc c'est... l'inventeur de la raquette aussi.
Sa... ouais, bon. Sa bosse servant de réserve de graisse a été essentielle pour les longs mois de noirceur hivernaux. Maintenant, ces deux caractéristiques l'aident à survivre dans le désert aride.
Mais comment il a fait pour traverser l'autre côté aussi?
Ben là, puis...
Et pourquoi?
Ouais. Il a nagé.
Il a nagé, oui.
Je
ne
sais
bon
pas
où
on le dit pas. Il y avait peut-être un continent entre les deux. Mais écoutez, tu as 3,5 millions d'années. Là,
quand même, il y a eu le temps.
Il, ouais, il a peut-être embarqué sur un iceberg puis il s'est rendu jusque là.
Et saviez-vous que le premier enregistrement de David Bowie sera aux enchères?
Oh!
On parle ici d'un démo, pas un enregistrement qui a été publié. Un démo de David Bowie enregistré alors qu'il n'avait que 16 ans et sous le nom de David Jones sera mis aux enchères à Londres. Et je me rappelle David Jones parce que quand il a commencé sa carrière, son vrai nom c'est David Jones, et quand il a commencé sa carrière à l'époque, il y avait déjà un autre David Jones qui était très connu, dont tout le monde a oublié le nom aujourd'hui. Il faisait partie du groupe The Monkees, qui ont eu du succès dans une émission de télé pendant 2 ans à peu près. Après, ça a été fini. Mais lui, il a dû changer de nom à cause de ça. Donc, on va se souvenir plus de Bowie que de David Jones. On espère en tirer 10 000 livres, donc 17 250 $ environ.
Pas plus que ça?
Non, mais on verra. Non. Peut-être que ça va être plus élevé aussi. Bon. Celui-ci, le démo, aurait été retrouvé dans un panier à pain par David Hadfield, le batteur et impresario du tout premier groupe de Bowie, The Conrads, selon The Guardian. Hadfield serait retombé sur cette relique alors qu'il remplissait des boîtes en vue d'un déménagement. Le vieux panier de pain se trouvait dans une pièce au-dessus d'un garage en compagnie de photos, d'affiches promotionnelles, de lettres et de factures. Je suppose qu'il va se servir de ça pour payer son déménagement. Donc, David Bowie, probablement, lui-même ne se souvenait même pas de ce démon-là. Il aurait peut-être été content de retrouver ça.
Il y a une série d'anecdotes là, sur des choses retrouvées comme ça, des toiles
effectivement,
qui étaient dans le fond d'un garde-robe.
Qui ont été complètement oubliées. Souvent, ça devient assez complexe aussi de les authentifier.
Oui, ben c'est ça. Oui.
Ça prend beaucoup de confiance aussi.
J'avais vu à un moment donné un documentaire ou une toile. Le peintre avait peint à l'envers de la toile,
oui.
Puis l'œuvre à l'arrière était cachée, et ils l'ont retrouvée.
Ils ont dû défaire ça pour trouver en dessous. Se sont servis de ça comme tapisserie.
Ou dans au Vatican, entre autres, ils ont caché, parce que Michel-Ange avait fait des nudités Alors, ils ont caché les nudités à un moment donné. Puis là, ben, en grattant, en fouillant, ils ont, sont en train de restaurer. Où il y avait une œuvre de
ça, 20... c'est quand ils les avaient pas.
Oui. Ou Vinci...
on vous reviendra la semaine prochaine avec plein d'autres trucs d'anecdotes comme ça. Ça met fin à l'émission Les Voix de service du mercredi 25 juillet 2018. À la semaine prochaine, tout le monde.
Bye-bye.